Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 41. Henchard rentra chez lui. Le jour était levé maintenant. Il alluma son feu et resta distraitement assis au coin de la cheminée. Il n'y était pas depuis longtemps lorsqu'un pas léger s'approcha de la maison, dont il longea le couloir. Puis on frappa doucement à la porte. Le visage d'Henchard s'éclaira car il avait reconnu le pas d'Elisabeth. Elle entra dans la chambre, le visage pâle et triste. « Vous savez ?» demanda-t-elle. « Mrs. Farfrae, elle est morte, oui, il y a une heure environ. »« Je le sais, j'en reviens, » répondit Henchard. « Tu es bien bonne, Elisabeth, d'être venue me prévenir. Tu dois être si lasse après ta nuit de veille. Tu peux aller te reposer dans l'autre chambre. Je t'appellerai quand le déjeuner sera prêt. » Pour faire plaisir à son beau-père, et pour sa propre satisfaction aussi, car cette douceur inaccoutumée éveillait une surprise émue dans le cœur de la jeune fille, elle obéit et alla s'allonger sur une espèce de divan qu'Henchard avait aménagé à l'aide d'un banc dans la pièce adjacente. Elle entendait son beau-père s'occuper des préparatifs du déjeuner, mais son esprit s'attachait surtout au souvenir de Lucetta, dont la mort, dans une telle plénitude de vie et devant de si joyeux espoirs de maternité, revêtait un aspect de brutalité redoutable. Elle finit par s'endormir. Cependant, Henchard avait préparé le déjeuner dans la pièce voisine, mais voyant qu'Elisabeth dormait, il ne voulut pas l'éveiller. Il attendit, en regardant le feu et en tenant l'eau du thé bouillante avec une sollicitude féminine, comme si c'eût été pour lui un honneur que d'avoir la jeune fille dans la maison. Ses sentiments à l'égard d'Elisabeth venaient de se transformer, et il commençait à caresser le rêve d'un avenir éclairé par une présence filiale, où il trouvait maintenant la seule promesse de bonheur possible. Il fut dérangé par un nouveau coup frappé à la porte, et se leva pour ouvrir, en déplorant l'inopportunité de cette visite. Un homme vigoureux se tenait sur le seuil. Il laissait paraître, dans son attitude et dans ses traits, cet air étranger et lointain que des habitués d'une vie cosmopolite auraient traité d'aspect colonial. C'était l'homme qui avait, un soir, demandé son chemin au doigt de pierre. Henchard salua d'un signe de tête et regarda l'étranger d'un air interrogateur. « Bonjour, bonjour, » fit l'autre, avec une exubérance cordiale. « C'est bien à Monsieur Henchard que je m'adresse ?»« Je m'appelle Henchard, en effet. » « Alors, je vous ai trouvé chez vous, et tout va bien. C'est le matin qu'il faut faire ses affaires, me disais-je. Puis-je causer un instant avec vous ?»« Certainement, » répondit Henchard en montrant le chemin. « Vous vous souvenez peut-être de moi ?» fit l'étranger, en prenant un siège. Henchard lui lança un coup d'œil distrait et secoua la tête. « Non ? C'est bien possible. Je m'appelle Newson. » Le visage et les yeux d'Henchard parurent se figer. L'autre ne s'aperçut de rien. « Je me souviens bien de votre nom, » fit enfin Henchard, les yeux sur le sol. « Je n'en doute pas. Eh bien, moi, voilà 15 jours que je vous cherche. J'ai débarqué à Havenpool et je suis passé par Casterbridge en me rendant à Falsmouth. Là, on m'a dit que vous habitiez Casterbridge depuis nombre d'années. Je suis donc revenu et la diligence m'a déposé ici il y a 10 minutes. Il habite près du moulin, m'a-t-on dit, et me voilà. C'est à propos de ce marché conclu il y a 20 ans que je suis venu vous voir. Curieuse affaire. J'étais plus jeune que maintenant, et peut-être le mieux que l'on puisse faire pour cette histoire-là serait de n'en rien dire. Curieuse affaire. Le mot de curieux est faible. Je ne puis pas convenir que je sois l'homme de cette soirée-là. Je n'avais plus mes esprits, et sans ses esprits, un homme n'est plus lui-même. Nous étions jeunes et insouciants dans ce temps-là, fit Newson. Mais je suis venu pour arranger les choses et non pour entamer une discussion. Pauvre Suzanne, elle a connu de singulières épreuves. Bien singulières, en effet. C'était une brave femme, au cœur chaud et simple, mais elle n'avait ni malice ni vivacité d'esprit, et c'était dommage pour elle. C'est vrai. Comme vous devez sans doute le savoir, elle avait eu la naïveté de se croire liée par notre marché. Elle a toujours été innocente comme une sainte du paradis en ce qui concerne cette affaire-là. « je le sais, » répondit Henchard, sans lever les yeux. « Je m'en suis aperçu tout de suite, et c'est cette pensée même qui me blesse au cœur. Si elle avait compris le véritable état des choses, elle ne m'aurait jamais quitté, jamais. Mais comment aurait-elle pu comprendre? Quelle connaissance avait-elle? Aucune. Elle savait écrire son nom et rien de plus. » « Je ne me suis pas senti le courage de la détromper une fois la chose faite, » répondit l'ancien marin. « J'ai pensé, et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de vanité à cela, j'ai pensé qu'elle serait plus heureuse avec moi. Elle a été assez heureuse, en effet, et pour rien au monde je n'aurais voulu la troubler jusqu'à son dernier jour. Votre enfant mourut, mais elle avait une autre fillette, et tout se passa bien. L'heure vint pourtant, un jour. L'heure vient toujours, vous savez. C'était après notre retour d'Amérique. » Un ami à qui elle avait raconté son histoire lui affirma que mes droits sur elle étaient illusoires et se moqua de sa foi dans la légitimité de notre union. Depuis ce jour-là, c'en fut fini de son bonheur auprès de moi. Elle dépérissait, languissait, soupirait de tristesse. Elle finit par me dire qu'elle devait me quitter. Seulement, il y avait la question de l'enfant. C'est alors que l'on me donna un conseil que je suivis, jugeant ne pouvoir mieux faire. Je m'embarquai, en laissant Suzanne à Falmouth. En arrivant de l'autre côté de l'Atlantique, mon bateau fut pris dans une tempête et je fus censé avoir été emporté par une lame avec plusieurs de mes camarades. Je descendis à Terre-Neuve en me demandant ce que j'allais faire. « Puisque je suis venu ici, me dis-je, je vais y rester. Ce sera une charité pour elle maintenant qu'elle est prévenue contre moi de lui laisser croire à ma fin, car tant qu'elle nous saura tous les deux en vie, elle sera malheureuse. Si elle me croit mort, au contraire, elle retournera vers lui, et l'enfant aura un foyer. Je n'étais jamais revenue au pays avant le mois dernier. En débarquant à Falmouth, j'ai su que Suzanne était venue vous retrouver, comme je m'y attendais, et avait amené sa fille. On m'a dit aussi que la pauvre femme était morte. Mais mon Elizabeth Jane, où est-elle? Morte aussi, répondit Henchard, d'un ton sombre. On aurait dû vous le dire. Le marin bondit et fit nerveusement quelques pas dans la pièce. « Morte ! » fit-il à voix basse. « Alors à quoi bon mon argent ?» Henchard hocha la tête sans répondre, comme pour dire que la question intéressait plutôt Newson que lui. « Où est-elle enterrée ? » demanda le voyageur. « Près de sa mère, » répondit Henchard, avec un accent morne. « Quand est-elle morte ? » « Il y a un peu plus d'un an. » Le marin restait debout, et Henchard gardait les yeux sur le plancher. Newson finit par soupirer. « J'ai fait un voyage inutile. Je n'ai plus qu'à repartir comme je suis venu. C'est bien fait pour moi. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. » Henchard entendit les pas de Newson sur le sol sablé. Le marin leva machinalement le loquet, ouvrit et ferma doucement la porte, comme un homme déçu et découragé. Mais Henchard ne tourna pas la tête. L'ombre de Newson passa devant la fenêtre. Il était parti. Alors, sans presque croire au témoignage de ses sens, Henchard se leva, stupéfait de ce qu'il venait de faire. Il avait obéi à une brusque impulsion. Sa tendresse toute fraîche pour Elizabeth, le nouvel espoir né dans sa solitude de trouver en elle une fille dont il put être aussi fier que de la fille véritable qu'elle croyait encore être, avait été stimulé par l'arrivée inattendue de Newson, et transformé en un égoïste et exclusif désir de possession. La brusque perspective de perdre la jeune fille avait arraché à Henchard des mensonges enfantins au mépris de toutes les conséquences possibles. Il attendait une série de questions qui allaient, en 5 minutes, dévoiler sa duplicité. Mais le marin n'en avait pas posé une seule. Au moins allait-il sûrement revenir. Son départ ne pouvait être que momentané. Il allait causer avec les gens de la ville et apprendre d'eux la vérité. Il reviendrait pour maudire Henchard et s'en aller avec son trésor. Saisissant son chapeau, Henchard partit dans la direction suivie par Newson. Le dos du marin était encore visible sur la route. Henchard le vit bientôt s'arrêter aux armes royales, où la diligence, arrivée le matin, attendait le passage d'une autre voiture. Le véhicule qui avait amené Newson allait repartir. Le marin monta sur le siège, étendit son bagage. Quelques minutes après, la voiture disparaissait avec lui. Il n'avait même pas tourné la tête. C'était un acte de simple foi, dans la parole d'Henchard, de foi si simple qu'elle en devenait sublime. Le jeune marin qui, sous l'impulsion du moment, et pour un seul regard jeté sur un visage avait emmené Suzanne Henchard plus de 20 ans auparavant, survivait et agissait encore de la même façon sous les traits du voyageur grisonnant qui avait accordé aux affirmations d'Henchard une confiance si parfaite que l'autre en restait accablé de honte. Cet impudent et brusque mensonge allait-il au moins lui valoir la possession d'Elisabeth ? Pas pour longtemps peut-être, se disait-il. Newson allait causer avec ses compagnons de voyage, dont certains pouvaient habiter Casterbridge, et la supercherie serait découverte. Tout prêt à cette éventualité, Henchard se tenait sur la défensive, et, au lieu de chercher la meilleure façon de réparer ses torts, en informant franchement de la vérité le père d'Elisabeth, il ne songeait qu'à se fortifier dans la situation que le hasard lui avait fait conquérir. Et la fragilité même des liens qu'il attachait à la jeune fille, et qu'un hasard pouvait rompre, rendait plus jalouse et plus forte son affection pour elle. Il regardait au loin, sur la route, s'attendant à voir revenir à pied Newson qui, instruit et indigné, viendrait réclamer son enfant. Mais nul piéton n'apparaissait. Sans doute le marin n'avait-il parlé à personne, et avait-il enterré sa peine dans son cœur ? Sa peine, que pouvait-elle être après tout, près de celle que la perte d'Elisabeth eût fait éprouver à Henchard ? Calmée par les années, la tendresse de Newson ne pouvait égaler celle d'un homme qui avait sans cesse vécu près de sa fille. Tels étaient les arguments spécieux que forgeait l'âme jalouse d'Henchard pour excuser la séparation d'un père et de son enfant. Il rentra chez lui, à demi préparé à ne plus trouver Elisabeth. Mais si, elle était là. Elle sortait de la seconde pièce, les yeux encore gros de sommeil et les traits reposés. « Oh, père, s'excusa-t-elle avec un sourire, à peine m'étais-je allongée que je me suis mise à dormir malgré moi. Je m'étonne de n'avoir pas rêvé de cette pauvre Mrs. Farfrae, après avoir tant pensé à elle. Il est bien étrange que nous rêvions si rarement des événements récents, quelque frappant qu'ils soient. » « Je suis heureux que tu aies pu dormir, » fit Henchard, en prenant avec un geste de tendre autorité la main de la jeune fille, qui en ressentit une douce surprise. Ils s'assirent pour déjeuner, et les pensées d'Elisabeth revinrent à Lucetta. Sa mélancolie prêtait un charme nouveau à un visage dont la beauté avait toujours été faite de gravité rêveuse. « Père, » fit-elle, en s'avisant du repas disposé sur la table, « vous êtes trop bon d'avoir préparé de vos propres mains ce joli déjeuner. » pendant que je dormais comme une paresseuse. Je le fais tous les jours. Tu m'as quittée, tout le monde m'a quittée. Comment ferais-je pour vivre si je ne me servais pas moi-même ? Vous vous trouvez bien seule, n'est-ce pas ? Oui, mon enfant, seule à un point que tu ne peux concevoir. C'est ma faute. Tu es la seule qui soit venue près de moi depuis des semaines, et tu ne reviendras plus. Pourquoi dire cela ? Je reviendrai certainement si cela vous fait plaisir de me voir. Henchard fit montre d'une certaine indécision. Malgré son fervent et tout récent espoir de voir Elisabeth vivre dans sa maison comme une fille, il ne voulait pas encore l'en prier. Newson pouvait revenir d'un moment à l'autre, et il préférait ne pas se trouver près de la jeune fille quand elle apprendrait le mensonge dont il s'était rendu coupable. Après le déjeuner, Elisabeth s'attarda jusqu'à l'heure où Henchard partait pour son travail quotidien. Elle se leva alors et monta la rue dans le soleil du matin, en promettant de revenir bientôt. En ce moment, il y a autant de chaleur pour moi dans son cœur que dans le mien pour elle. Il me suffirait de l'en prier pour qu'elle vienne habiter près de moi, dans cette misérable bicoque, et dire qu'avant le soir, il sera probablement revenu et qu'elle me méprisera. Cette pensée, ruminée sans cesse par Henchard, l'obséda toute la journée. Son humeur n'était plus celle du misérable révolté, ironique et insouciant, mais la tristesse de plomb, de l'homme qui a perdu tout ce qui peut rendre la vie intéressante ou même tolérable. Il ne lui resterait plus un être dont se montrer fier, plus personne pour l'encourager, car Elisabeth Jane ne serait bientôt plus qu'une étrangère, ou pis encore. Suzanne, Farfrae, Lucetta, Elisabeth, faute ou malheur, tous l'avaient quittée tour à tour. Pour les remplacer, il n'avait nul intérêt, nulle fantaisie, nul désir. S'il avait pu appeler la musique à son aide, son existence même alors serait devenue supportable, car la musique exerçait sur lui une action prodigieuse. Une simple note d'orgue ou de trompette suffisait à l'émouvoir, et les nobles harmonies le transportaient. Mais la destinée n'avait pas voulu lui permettre de s'adresser à cet esprit divin en son heure de détresse. Tout n'était que nuit devant ses pas. Il n'y avait rien à voir venir, rien à attendre. Et pourtant, l'ordre normal de la vie lui assurait une trentaine, une quarantaine d'années encore à traîner sur cette terre une existence ridicule ou, au mieux, pitoyable. Une telle pensée était intolérable. À l'est de Casterbridge s'étendent des landes et des prés qu'arrosent maint ruisseau. Le passant qui se tiendrait immobile dans cette partie de la campagne, par une nuit paisible, entendrait de singulières symphonies jouées par l'invisible orchestre des eaux. Chaque ruisseau tient sa partie, d'un bout à l'autre de la lande. L'eau chante un récitatif, en coulant par le trou d'un barrage pourri, trille joyeusement contre le bâtard d'eau de pierre dressé dans le courant d'un modeste affluent, fait un bruit métallique de cymbales sous une arche de pont et siffle en pénétrant dans le trou de Durnover. L'endroit où s'enflaient le plus les voix de l'orchestre était le point appelé les divanes, d'où s'échappait au temps des hautes eaux de printemps une véritable fugue de sons. La rivière était toujours si profonde et impétueuse en ce lieu que l'on avait disposé des vannes, manœuvrées par une crémaillère à manivelle. Un sentier, venu de la grande route, menait à ces vannes et se continuait au-dessus du barrage par une étroite passerelle en planches jetée sur la rivière. La nuit tombée, on ne rencontrait jamais personne de ce côté, car le sentier ne menait à nul endroit particulier et le passage était dangereux. Ce soir-là, Henchard quitta pourtant la ville par la route de l'Est et se dirigea vers le second pont, le pont de pierre. De là, il suivit le sentier solitaire de la berge jusqu'au point où se profilait sur la vague lueur laissée sur l'eau par les derniers reflets du couchant la forme sombre des divanes. Un instant plus tard, il se dressait près du barrage où l'eau était la plus profonde. Il regarda autour de lui, personne n'était en vue. Il ôta son paletot et son chapeau et se tint sur la berge, les deux mains nouées devant lui. Ses yeux attachés sur le courant finirent par distinguer un objet qui flottait dans le trou rond formé par les siècles, le creux dont il voulait faire son lit de mort. La chose, d'abord indistincte dans l'ombre de la berge, sortit bientôt de cette ombre et prit une forme, la forme d'un corps humain, droit et raide, à la surface de l'eau. Prise dans le tourbillon du courant central, la forme fut soulevée et vint passer sous les yeux d'Henchard. Il vit alors avec un sentiment d'horreur que c'était lui-même. Ce n'était pas un homme qui lui ressemblait, mais son double parfait, l'exacte copie de sa personne morte qui flottait au trou des divanes. Le sentiment du surnaturel gardait beaucoup de force dans le cœur du malheureux homme, et il se détourna comme il aurait pu le faire en face d'un miracle terrifiant. Il se couvrit les yeux et baissa la tête, puis, sans regarder l'eau, il reprit son chapeau et sa veste et s'éloigna lentement. Il se trouva bientôt devant la porte de sa demeure et fut surpris d'y voir Elizabeth Jane. Elle s'avança vers lui en lui parlant et en l'appelant père, comme d'habitude. Newson n'était donc pas encore revenu. « Je vous ai vu bien triste ce matin, » expliqua la jeune fille, « et je suis revenue vous voir. Non pas que je ne sois triste moi-même, mais choses et gens paraissent se liguer pour vous accabler, et je sais que vous devez souffrir. » Comme elle comprenait les choses, et pourtant elle n'avait pas deviné tout encore. « Crois-tu qu'il y ait des miracles de nos jours, Elizabeth Jane ?» demanda Henchard. « Je ne suis pas un savant, et je ne sais pas autant de choses que je le voudrais. » Toute ma vie j'ai essayé de lire pour m'instruire, mais plus je m'efforce de connaître, et plus je m'aperçois de mon ignorance. « Je ne crois pas beaucoup aux miracles actuels, » répondit la jeune fille. « Tu ne crois pas à une intervention surnaturelle en présence d'une résolution désespérée, par exemple ? Peut-être ne s'agit-il pas d'une intervention directe, mais si tu veux venir avec moi, je te montrerai ce que je veux dire. » Elizabeth se plia volontiers à ce désir, et Henchard la mena par la grande route jusqu'au sentier solitaire des divanes. Il marchait d'un pas agité, comme si une ombre obsédante, invisible pour sa compagne, l'avait précédé en troublant sa vision. La jeune fille aurait aimé parler de Lucetta, mais elle craignait d'affliger son beau-père. Arrivé près des vannes, il resta immobile et pria Elizabeth d'aller regarder dans l'eau et de lui dire ce qu'elle y verrait. Elle obéit et revint bientôt. « Je ne vois rien, dit-elle. « Retourne et regarde mieux !» insista Enchard. Elle se pencha à nouveau sur la rive et finit, après une attente assez longue, par voir flotter un objet dont elle ne pouvait discerner la nature. On aurait dit d'un paquet de vieux vêtements. « Est-ce qu'ils ressemblent aux miens ?» demanda Enchard. « Tiens, oui, c'est vrai. Mon Dieu, je me demande si... Père, allons-nous-en. Va jeter un dernier coup d'œil, et puis nous retournerons chez nous. » Elle s'éloigna, et il la vit pencher la tête presque au ras de l'eau. Elle bondit et revint vivement vers lui. « Eh bien, interrogea Enchard, que dis-tu maintenant? Allons-nous-en. Mais, dis-moi, qu'est-ce qui flotte là ?»«
Le mannequin, répondit-elle d'un ton agité. On a dû le jeter à l'eau, là-haut, du côté des saules, pour s'en débarrasser dans la crainte d'une découverte, et le courant l'a entraîné jusqu'aux vannes. Ah, c'est vrai, mon effigie! Mais l'autre, où est-elle? Pourquoi celle-là seule? Et pourquoi cette farce qui l'a tuée me vaut la vie à moi? »
Elizabeth Jane se répétait ces paroles. « Me vaut la vie !» le long du chemin qui les ramenait à la ville, et elle finit par en comprendre le sens. « Oh, père, s'écria-t-elle, je ne veux plus vous laisser seule comme cela. Voulez-vous me permettre de venir habiter près de vous et de prendre soin de vous comme autrefois? Que m'importe la pauvreté? Dès ce matin, je vous aurais promis de venir, mais vous ne me l'avez pas demandé. » « Si je te permets de venir habiter près de moi, s'écria amèrement Enchard, ne te moque pas de moi, Elizabeth. Ah, si tu voulais seulement venir.
Eh bien, c'est entendu.
Comment pourras-tu me pardonner mes rigueurs passées? C'est impossible.
J'ai tout oublié. Ne parlez plus de cela. »
Elle le rassurait et formait des projets pour leur vie commune. Ils finirent par se quitter pour regagner leur logis respectif. Pour la première fois depuis bien des jours, Enchard se rasa, brossa ses cheveux, mit du linge propre et prit de ce moment la mine d'un homme ressuscité. La découverte d'un vacher établit le lendemain le bien-fondé de la supposition d'Elizabeth. Il trouva le mannequin près des vannes et celui de Lucetta un peu plus haut dans la rivière. On fit sur l'incident tout le silence possible, et les deux fantoches furent détruits en secret. Malgré cette explication naturelle du mystère, Enchard persista à voir dans la présence du mannequin sur l'eau une intervention supérieure, et Elizabeth Jane l'entendit déclarer « Il n'y a pas sur terre de réprouvé plus indigne que moi, et pourtant on dirait que je suis moi aussi dans la main de quelqu'un. »